Chapitre 2. Après un an de cercueil, la chambre au 25e étage du Chiba Hilton paraissait gigantesque. Elle faisait 10 mètres sur 8, la moitié d'une suite. Une cafetière brune, blanche, fumait sur une table basse près des portes-fenêtres coulissantes qui ouvraient sur un balcon étroit. « Sers-toi du café, tu m'as l'air d'en avoir besoin. » Elle retira son blouson noir. Le flécheur pendait sous son bras calé dans un étui d'épaule en nylon noir. Elle portait un pull gris sans manches, avec de grosses fermetures à glissière en acier sur chaque épaule. « Gilet pare-balles », estima Keds en se versant du café dans une tasse rouge vif. Il avait l'impression d'avoir les bras et les jambes en bois. « Keds !» Il leva les yeux, découvrant l'homme pour la première fois. « Je m'appelle Armitage. » La tunique sombre était ouverte à la taille, dévoilant une large poitrine imberbe et musculeuse, un estomac plat et dur. L'homme avait des yeux d'un bleu si pâle que Keds songea à du décolorant. « Le soleil est levé, Keds. C'est votre jour de chance, mon garçon. » Keds projeta le bras de côté et l'homme esquiva sans peine le jet de café brûlant. Tache brune qui découline sur le mur en imitation papier de riz. Il vit l'anneau d'or à facettes passer au lobe de l'oreille gauche. Fort spécial. L'homme sourit. « Bois ton café, Keds, » dit Molly. « T'es ok, mais t'iras nulle part, tant qu'Armitage aura son mot à dire. » Elle s'assit en tailleur sur un bas-flanc de soie, puis entreprit de démonter son lance-fléchette sans même avoir à le regarder. Deux miroirs le suivirent, tandis qu'il s'approchait de la table pour remplir sa tasse. « Trop jeune pour vous rappeler la guerre, Keds, n'est-ce pas ?» Armitage fit courir une grosse patte dans ses cheveux bruns taillés en brosse. Un lourd bracelet doré étincelait à son poignet. « Leningrad, Kiev, la Sibérie. On vous a inventé en Sibérie, Keds ?»« Et c'est censé signifier quoi ?»« Point hurlant, Keds. Vous avez déjà entendu ce nom-là ?»« Une espèce de passe, c'est ça ?» Pour essayer de cramer ce nœud de communication des Russes à l'aide de programmes virus ? Ouais, j'en ai entendu parler. Et pas un ne s'en est sorti. Il perçut une brusque tension. Armitage se dirigea vers la fenêtre et contempla la baie de Tokyo. Ce n'est pas exact. L'un d'eux est parvenu à regagner Helsinki, Keds. Keds haussa les épaules, sirota son café. Vous êtes un cow-boy du pupitre. Les prototypes des programmes que vous utilisez pour craquer les banques de données des sociétés ont été développés pour Point Hurlant, pour l'attaque du nœud informatique de Kirensk. La cellule de base se composait d'un micro-léger Nightwing, d'un pilote, d'une console, un serre-matrice, d'un pupitreur. On pilotait un virus appelé Taupe. La série des Taupes formait la première génération de véritables programmes d'intrusion. « Les brise-glaces, » dit Keds, la tasse rouge levée devant ses lèvres. « Glace comme G-L-A-C-E, générateur de logiciels anti-intrusion pour contre-mesure électronique. Le problème, cher monsieur, c'est que je ne suis plus pupitreur. Aussi, je pense qu'il ne me reste plus qu'à... J'étais là, Keds. J'étais là quand ils ont inventé les mecs de votre espèce. Pouvez-vous brosser pour m'avoir ?» Moi, les mecs de mon espèce, mon pote. Vous êtes peut-être assez riche pour engager des tigresses griffes de luxe et me les foutre au cul, mais ça ne va pas plus loin. Je ne toucherai plus un clavier, ni pour vous, ni pour personne. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda en bas. C'est ici que je vis à présent. Notre profil indique chez vous une tendance à pousser la rue à vous tuer quand vous ne regardez pas. Profil ? Nous avons élaboré un modèle détaillé, bâti un environnement pour chacun de vos pseudos et lancé la simulation dans un programme militaire quelconque. Vous êtes un suicidaire, Keds. Le modèle vous donne un mois de survie à l'extérieur. Et notre projection médicale indique que vous aurez besoin d'un pancréas dans un délai d'un an. Non. Il rencontra les yeux bleu pâle. Nous qui ? Que diriez-vous si je vous disais qu'on peut corriger vos dégâts neurologiques, Keds. Armitage apparut soudain à Keds comme s'il avait été taillé dans un bloc de métal inerte, terriblement pesant. Une statue. Il savait désormais que c'était un rêve, et qu'il s'éveillerait bientôt. Armitage ne reparlerait plus. Les rêves de Kez s'achevaient toujours sur de tels plans fixes, et celui-ci était à présent achevé. « Qu'en diriez-vous, Kez ?» Kez laissa son regard errer sur la baie et frissonna. « Je dirais que vous êtes un tas de merde. » Armitage hocha la tête. « Ensuite, je vous demanderai quelles sont vos conditions. » « Pas très différente de celle auxquelles vous êtes accoutumé, Kez. »« Laisse-le dormir un peu, Armitage, » interrompit Molly. Toujours sur son lit bas, les divers composants du flécheur étaient éparpillés sur la soie comme les pièces de quelques puzzles coûteux. « Les conditions, » insista Kez. « Et maintenant, tout de suite. » Il frissonnait toujours. Il ne pouvait s'empêcher de frissonner. La clinique était anonyme, luxueuse. Un petit groupe de pavillons cossus séparés par de petits jardins à la française. Il avait déjà remarqué l'endroit dès son premier mois de présence à Chiba. « T'as la trouille, Kez, vraiment la trouille ?» C'était le dimanche après-midi, et il se trouvait avec Molly dans une sorte de cour intérieure. Rocher blanc, un bosquet de bambous verts du gravier noir ratissé en vagues lisses. Un jardinier, un machin genre gros crabe métallique, tailler les bambous. Ça marchera, Kez. Tu n'as pas idée du genre de matos dont dispose Armitage. Imagine qu'il va payer ses neuros à te remettre sur pied en leur filant le programme qui leur indique comment procéder. T'as une idée de ce que ça vaut ? Elle crocha les pouces dans les boucles de son ceinturon de cuir et se balança en arrière sur les talons laqués de ses bottes de cow-boy rouge cerise. Orteils fins glissés dans un étui brillant d'argent mexicain. Les lentilles de vif argent le considéraient avec le calme vacant d'un regard d'insecte. « Tu es un samouraï des rues, lui dit-il. Depuis combien de temps travailles-tu pour lui ? 2 mois. Et avant ? Pour quelqu'un d'autre, une indépendante, tu connais ? » Il acquiesça. « Marrant, Kez. Qu'est-ce qui est marrant ? C'est comme si je te connaissais. » Le profil qu'il a trouvé. Je sais comment t'es câblé. Tu me connais pas, Sorette. T'es ok, Kez. Ce qui t'a chopé, ça s'appelle tout bêtement le manque de bol. Et lui alors, il est ok, Molly ? Le crabe robot avançait dans leur direction, sinuement parmi les vagues de gravier. Sa carapace de bronze aurait pu dater de 1000 ans. Parvenu à moins d'un mètre des bottes de la fille, il envoya un trait de lumière, puis se figea un instant pour analyser les données recueillies. Ce à quoi je pense en premier lieu, Kez, c'est à mon joli petit cul. Le crabe avait modifié sa course pour l'éviter, mais elle lui balança un coup de pied parfaitement ajusté, de l'embout argenté de la botte, qui résonna contre la carapace. La chose se renversa sur le dos, mais les pattes de bronze eurent au fait de la redresser. Kez était assis sur l'un des rochers, dérangeant la symétrie des ondes de gravier du bout de ses chaussures. Il se mit à fouiller dans ses poches, en quête de cigarettes. « Dans ta chemise, » lui dit-elle. « Tu veux bien répondre à ma question ?» Il piocha dans le paquet une Ye et Yuan fripée qu'elle lui alluma avec une mince plaque d'acier allemand qui n'aurait pas détonné sur une table d'opération. « Eh bien, je vais te dire, moi, ce type est manifestement sur quelque chose. Il a un paquet de fric, alors qu'il n'en a jamais eu auparavant. Et il continue d'en ramasser. » Kez nota une certaine tension autour de sa bouche. Ou peut-être au contraire que quelque chose est sur lui. Elle haussa les épaules. « Ce qui veut dire, je ne sais pas exactement, ce que je sais, c'est que j'ignore pour qui ou pourquoi nous travaillons réellement. » Il fixa les miroirs jumeaux. En quittant le Hilton le samedi matin, il était retourné à l'hôtel Echo pour y dormir 10 heures. Puis il était parti pour une longue balade sans but, le long du périmètre de sécurité du port, à regarder les mouettes tournoyer derrière la barrière. Si elle l'avait filé, si elle s'y était bien prise, il avait évité la cité de la nuit. Dans son cercueil, il avait attendu l'appel d'Armitage. Et maintenant, cette cour tranquille, le dimanche après-midi, cette fille, au corps de gymnaste avec des mains d'illusionniste. Si vous voulez bien venir à présent, monsieur l'anesthésiste vous attend. Le technicien s'inclina, pivota, puis réintégra la clinique sans s'inquiéter de voir Sikes aller le suivre. Odeur d'acier froid, glace qui lui caresse l'échine. Perdu, si petit dans ses ténèbres, les mains devenues froides, image corporelle qui s'efface au long de corridors d'un ciel télévision. Des voix. Puis le feu noir, qui trouve les affluents de ses nerfs, une douleur au-delà de tout ce qui a jamais reçu le nom de douleur. Tiens-toi tranquille, gigote pas. Et Ratz était là, et Lindali, et Gage, et Lonizone, une centaine de visages sortis de la forêt de néon, marins et pirates et putains, là où le ciel est argent empoisonné, au-delà du réseau, au-delà de la prison de son crâne. Mais arrête donc de gigoter, nom de Dieu ! Où le ciel, une fois effacé, débarrassé des parasites sifflants de l'absence de couleur de la matrice, il entrevit les shurikens, les étoiles. « Arrête un peu, Kez, faut que je trouve ta veine !» Elle lui bloquait le torse, une sorette de plastique bleu dans une main. « Tu te tiens pas tranquille, je t'égorge, bordel ! T'es encore bourré d'inhibiteurs d'endorphines !» Il s'éveilla pour la trouver étendue près de lui dans le noir. Il avait la nuque friable, sable et brindilles. Un point de douleur constant lui vrillait le bas du dos. Des images se formaient et se reformaient. Un montage clignotant de tours de la conurbe et de dômes de fuleurs déchiquetés, de vagues silhouettes qui se mouvaient vers lui dans l'ombre, sous un pont ou un passage supérieur. « Kez ? On est mercredi, Kez !» Elle bougea, roula sur le ventre, se pencha au-dessus de lui. Un sein lui effleura le bras. Il l'entendit déchirer la capsule d'une bouteille d'eau et boire. « Tiens !» Elle lui mit la bouteille dans la main. « Je peux voir dans le noir, Kez. J'ai des amplificateurs d'images à micro-canaux dans mes verres. J'ai mal au dos. C'est par là qu'ils ont remplacé tes fluides. Changé ton sang également. Le sang, parce que t'as gagné dans l'affaire un nouveau pancréas et du tissu hépatique neuf. Question neurologique, je ne sais pas. Plein d'injections. Ils n'ont rien eu à ouvrir pour le grand cirque. » Elle se réinstalla à côté de lui. « Il est 2h43 du matin, Kez. J'ai un afficheur micro-connecté sur le nerf optique. » Il s'assit et voulut boire à la bouteille. S'étrangla, toussa, se retrouva la poitrine et les cuisses aspergées d'eau tiède. « Faut que je console !» s'entendit-il dire. Il cherchait à tâtons ses vêtements. « Faut que je sache !» Elle rit. De petites mains robustes lui agrippèrent les bras. « Désolé, grosse tête. 8 jours de patience. T'aurais le système nerveux qui se répandrait par terre si tu te branchais maintenant. Ordre du toubib. D'ailleurs, il suppose que ça a marché. Vérifieront dans un jour ou deux. » Il se rallongea. « Où sommes-nous ? Au Bercail, l'hôtel Echo ? Où est Armitage ? Au Hilton, en train de vendre des colliers aux autochtones ou je ne sais quoi. On en est bientôt sorti, mec. Amsterdam, Paris, puis retour à la Conurbe. » Elle lui effleura l'épaule. « Tourne-toi, je vais te faire un bon massage. » Il se mit sur le ventre, les bras étendus en avant, le bout des doigts contre la paroi du cercueil. Elle se jucha sur ses reins, les genoux sur la mousse, contact frais du futal de cuir contre sa peau. Il sentit ses doigts lui effleurer le cou. « Comment ça se fait que tu ne sois pas au Hilton ?» Elle lui répondit en passant la main en arrière entre ses cuisses pour venir lui pincer doucement le scrotum entre le pouce et l'index. Elle ondula une bonne minute ainsi dans le noir, dressée au-dessus de lui, l'autre main toujours plaquée sur son cou. Le cuir de son jean craquait doucement au rythme de ses mouvements. Kez changea de position, sentant son membre se durcir contre la mousse. La tête l'élançait, mais sa nuque commençait à se désensabler. Il se leva sur un coude, roula sur le dos, retomba contre la mousse, la tirant vers lui, lui léchant les seins, petit mamelon dur qui glisse, humide contre sa joue. Il trouva le zip du jean de cuir et le fit descendre. « C'est ok, » fit-elle. « Je peux y voir. » Bruit du jean qui glisse. Elle se tortilla à côté de lui, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se dégager à coups de pied. Elle lui passa une jambe par-dessus et lui effleura le visage. Dureté inattendue des lentilles implantées. « Non, » fit-elle, « les empreintes. » Elle l'avait à présent enjambée de nouveau, lui prenant la main, la refermant sur elle, le pouce glissé le long du sillon des fesses, les doigts étendus en travers des lèvres. Alors qu'elle commençait à nouveau à s'abaisser, les images revinrent, pulsantes, visages, fragments de néon qui déferlaient et repartaient. Elle vint se couler tout autour de lui, et il sentit son dos s'arquer dans un spasme convulsif. Elle le chevaucha de cette manière, s'empalant, glissant et coulissant sur lui, jusqu'à ce qu'ils aient joui tous les deux, orgasme d'éclat bleu dans un espace hors du temps, vaste comme la matrice, où les visages étaient éclatés, pulvérisés au long de corridors de tempête, et ses cuisses fortes et moites contre ses hanches. Sur Ninsei, la version de la semaine, plus clairsemée de la foule du dimanche, parcourait les mêmes pas de la danse. Des ondes sonores déferlaient des galeries et des salles de pachinko. Kez jeta un œil au chat et vit Zone surveiller ses filles dans la pénombre chaude qui sentait la bière. Ratz était au bar. « T'as vu Gage, Ratz ? Pas ce soir. » Ratz ne manqua pas de hausser un sourcil en voyant Molly. « Tu le vois, tu lui dis que j'ai son fric. » « La chance tourne, l'artiste. Trop tôt pour dire. »« Eh bien, faut que je voie ce mec, » dit Kez en contemplant son reflet dans ses verres. « J'ai des affaires à annuler. »« Armitage ne va pas apprécier que je ne te garde pas à l'œil. » Elle se tenait devant la pendule molle de Dean, main sur les hanches. « Le mec ne va jamais me parler si tu es là, Dean. Je m'en contrefous. Il sait se débrouiller tout seul. » « Mais j'ai des types qui vont y passer si je disparais de Chiba. C'est mes gars, tu piges !» Sa bouche se durcit, elle hocha la tête. « J'ai des gars à Singapour, des contacts à Tokyo, à Shinjuku et à Asakusa. Et ils vont dégringoler, tu comprends ?» lui mentit-il, les mains posées sur les épaules de son blouson noir. « 5 minutes, 5, pas plus. À ta montre, dac ? Je suis pas payé pour ça. » « Ce pourquoi t'es payé est une chose. Que je laisse crever mes amis proches sous prétexte que madame suit les ordres trop à la lettre en est un autre. »« Connerie, ami proche mon cul. T'es venu là pour nous régler notre compte avec ton contrebandier. » Elle posa un pied botté sur la table basse, Kandinsky, couverte de poussière. « Ah, Kez, mon ami, il semblerait que ta compagne soit indubitablement armée, sans parler du fait... qu'elle a une bonne quantité de silicone dans la tête. Mais c'est à quel sujet, au juste ? Le toussotement spectral de Dean demeurait comme en suspension dans l'air entre eux. « Attends voir, Julie. De toute façon, j'entre seul. T'as intérêt, fils. Je ne l'entendais pas autrement. »« D'accord, » fit-elle, « vas-y, mais 5 minutes. Une de plus, et j'entre refroidir définitivement ton ami proche. Et tant qu'on y est, tâche voir de deviner un truc. Lequel ? « Pourquoi je te fais cette faveur ?» Elle pivota et sortit, longeant les modules entassés de gingembre en poudre. « Alors, on a des fréquentations plus bizarres que d'habitude, Kez ?» demanda Julie. « Julie, elle est partie. Tu veux me laisser entrer, je t'en prie, Julie. » Les verrous cliquetèrent. « Doucement, Kez, » dit la voix. « Allume donc ton bidule, Julie. Tout le truc est dans la console, » dit Kez en prenant place dans le fauteuil pivotant. « Elle est allumée en permanence, » fit Dean d'une voix douce. Il avait saisi un pistolet caché derrière les entrailles éventrées de sa vieille machine à écrire et visait soigneusement Kez. C'était un mastard, un magnum ou canoncier à rat. La garde de détente avait été entaillée et la crosse était entourée par ce qui ressemblait à du vieux ruban adhésif. Kez trouva sa présence très bizarre entre les mains roses et manucurées de Dean. « Simple précaution, comprends-tu ? Rien de personnel. À présent, dis-moi ce que tu veux. J'ai besoin d'une leçon d'histoire, Julie, et d'un topo sur quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, fils ?» Dean portait une chemise de coton à rayures, col dur et blanc, comme de la porcelaine. « C'est moi qui passe, Julie. Je me barre, je disparais. Mais rends-moi ce service, Dak ?»« Un topo sur qui, fils ?» ?»« Un Gaijin du nom d'Armitage. » Il a une suite, Wilton. Dean reposa le pistolet. « Bouge pas, Kez. » Il tapa quelque chose sur un clavier portatif. « On dirait que t'en sais presque autant que mon réseau, Kez. » Ce gentleman semble avoir passé un accord temporaire avec le Yakuza et les fils du chrysanthème de Néon ont les moyens de protéger leurs alliés des curieux de mon genre. À leur place, je ferai pareil. Bon, l'histoire à présent. Tu parlais d'histoire ? Il reprit son pistolet, mais ne le braqua pas directement sur Kez. Quel genre d'histoire ? La guerre. T'as fait la guerre, Julie ? La guerre ? Pour en savoir quoi ? Elle a duré 3 semaines. L'opération Point Hurlant. Célèbre ! Il t'enseigne donc pas l'histoire aujourd'hui ? Ça a fait un sacré putain de football politique après-guerre. Tiens, ils ont tout watergâté de fond en comble. Votre galonné, Kez, votre galonné de la Conurbe, où qu'il était, McLean ? Planqué dans les blocos. Tout ça, le gros scandale. Pendant qu'on dilapidait un bon paquet de jeunes chairs patriotiques, histoire de tester une quelconque technologie nouvelle, ils étaient au courant des défenses russes. Devait-il apparaître plus tard ? Au courant des EMS, des armes à impulsion électromagnétique, ils ont quand même envoyé ces petits gars rien que pour voir. Dean haussa les épaules. Un coup dans l'eau pour Ivan. Il y en a qui s'en sont sortis ? Bon Dieu, ça remonte à un putain de bail. Quoique je crois bien que certains y soient parvenus. L'une des équipes. Se sont emparés d'un appareil russe, un hélicoptère, tu vois. Ils ont regagné avec la Finlande. Ils n'avaient pas les codes d'entrée, bien entendu. Alors, ils ont ratiboisé une bonne partie des défenses finnoises dans l'affaire. C'était des mecs des forces spéciales d'intervention. Dean renifla. Un putain de merdier. Kez acquiesça. L'odeur de gingembre en poudre était entêtante. J'ai passé la guerre à Lisbonne, tu sais, reprit Dean en rabaissant le pistolet. Chouette coin, ça, à Lisbonne. Dans l'actif, Julie ? À peine. Quoique j'en ai vu de l'action. Dean sourit de son sourire rose. Merveilleux ce que peut faire une guerre pour vous stimuler le marché. Merci, Julie, je te revaudrai ça. C'était rien, Kez, et au revoir. Et plus tard, il se dirait que cette soirée chez Samy était mal barrée depuis le début. Que même lorsqu'il avait suivi Molly le long de ce corridor, traînant les pieds au milieu d'une couche piétinée de bouts de tickets et de tasses en polystyrène écrasées, il l'avait senti. La mort de Linda qui guettait. Ils étaient allés au Namban après qu'il eut vu Dean et réglé sa dette envers Gage avec un rouleau de nouveaux yens d'Armitage. Gage avait apprécié. C'est mignon, un peu moins. Et Molly n'avait cessé de sourire, aux côtés de Kez, avec une espèce d'ardeur extatique et fauve, attendant manifestement que l'un d'eux fît un geste inconsidéré. Puis il l'avait ramené au tchat prendre un verre. « Tu perds ton temps, cow-boy, » dit Molly, lorsque Kez sortit un octogone de sa poche de chemise. « Comment ça ? T'en veux un ? » dit-il en lui tendant la pilule. « Ton nouveau pancréas, Kez, et ses branchements dans ton foie. Armitage les a conçus pour court-circuiter cette saloperie. » Elle tapota l'octogone de son ongle bordeaux. Tu es biochimiquement incapable de t'envoyer en l'air à la coque ou aux enfers. « Merde, » fit-il. Il contempla l'octogone, puis la regarda. « Bouffe-le, bouffe-en 12, il se passera rien. » Il le fit, rien ne se passa. 3 bières plus tard, elle interrogeait Ratz sur les combats. « Au Samy, » dit Ratz. « Très peu pour moi, » dit Kez. « J'ai entendu dire qu'il se tuait là-bas. » Une heure plus tard, elle leur rachetait les billets auprès d'un taille décharné, en t-shirt blanc et short de rugby flottant. Le Samy était un dôme gonflable derrière un entrepôt du port, toile grise tendue, renforcée d'un réseau de minces câbles d'acier. Le corridor, muni d'une porte à chaque extrémité, formait un sas grossier maintenant la dépression différentielle qui soutenait le dôme. Des anneaux fluorescents étaient vissés à intervalles réguliers, aux plaques de contreplaqué du plafond, mais la plupart avaient été brisées. L'air était moite, imprégné de l'odeur de la sueur et du béton. Rien de tout cela ne le préparait à l'arène. La foule, le silence tendu, aux imposantes marionnettes de lumière qui dansaient sous le dôme. Les travées de béton descendaient en rangée jusque vers une espèce de scène centrale, un plateau circulaire surélevé, cerné d'un scintillant taillis de projecteurs. Non pas de lumière, mais d'hologrammes qui vacillaient et clignotaient au-dessus du ring, reproduisant les mouvements des deux hommes au-dessous. Des strates de fumée de cigarette s'élevaient des travées, dérivant, jusqu'au moment de rencontrer les courants ascendants engendrés par les soufflantes qui maintenaient le dôme. Aucun bruit, hormis le ronflement assourdi des turbines et la respiration amplifiée des lutteurs. Des reflets multicolores jouaient sur les lentilles de Molly, tandis que les hommes tournaient sur le ring. Les hologrammes avaient un grossissement de 10. À cette échelle, les couteaux qu'ils tenaient faisaient près d'un mètre de long. La prise du lutteur au couteau est identique à celle de l'escrimeur, se rappelait Kez. Les doigts repliés, le pouce dans l'alignement de la lame. Les couteaux semblaient se mouvoir d'eux-mêmes, glissant en décrivant avec une rituelle absence de hâte les différentes positions de leur danse, point par point, tandis que chacun des deux hommes guettait une ouverture. Le visage levé de Molly était immobile et lisse, attentif. « Je vais nous chercher quelque chose à manger, » dit Kez. Elle acquiesça, perdue dans la contemplation de la danse. Il n'aimait pas cet endroit. Il se tourna pour réintégrer l'ombre. Trop sombre, trop calme. La foule, remarqua-t-il, était essentiellement nippone. Pas vraiment une foule de la cité de la nuit. Des technos descendus des archéologies. Il crut y voir le signe que l'arène avait l'approbation de quelque comité des loisirs d'un conglom. Il se demanda fugitivement quel effet ça pouvait faire de travailler toute sa vie pour un zaibatsu. Logé par la boîte, dirigé par la boîte, enterré par la boîte. Il avait presque accompli le tour complet du dôme sans avoir découvert les stands de bouffe. Il acheta des yakitori en brochette et deux grands cartons de bière. Levant les yeux vers les hologrammes, il vit le sang qui corsetait la poitrine de l'une des silhouettes. Une sauce épaisse et brune dégoulinait des brochettes et sur ses phalanges. Encore 8 jours et il se branchait. Pour peu qu'il ferme les yeux, il voyait déjà la matrice. Des ombres se tordaient tandis que les hologrammes viraient dans leur danse. Puis il se mit à sentir les nœuds de la peur entre ses omoplates. Un ruisseau de sueur froide lui glissa le long des côtes. L'opération n'avait pas réussi. Il était toujours là, toujours le même tas de viande, pas de Molly pour l'attendre, les yeux fixés sur la danse des couteaux, pas d'Armitage pour l'attendre au Hilton avec les billets, un passeport neuf et de l'argent. Tout cela n'était plus qu'une sorte de rêve, une manière de fantasme pathétique. Des larmes brûlantes brouillèrent sa vision. Le sang jaillit d'une jugulaire dans une giclée de lumière écarlate. Et voilà que la foule se mettait à hurler, se lever, vociférer, tandis que l'un des combattants s'effondrait, que l'hologramme s'effaçait, clignotait. Goutte vomie dans le fond de la gorge. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, les rouvrit, et vit Linda Lee passer devant lui, ses yeux gris, aveuglés par la terreur. Elle portait le même treillis. Passer et disparaître dans l'ombre. Pur réflexe. Il jeta la bière et le poulet pour lui courir après. Il aurait pu crier son nom, mais n'aurait eu aucune certitude. Image persistante d'un unique pinceau de lumière rouge, fin comme un cheveu. Béton fendillé sous la semelle de ses chaussures. Éclair des tennis blanches tout près du mur, circulaire à présent. Et de nouveau, l'image fantôme du laser qui se grave en travers de ses yeux, tressautant devant lui, au rythme de sa course. Quelqu'un le fait trébucher. Le béton lui lacère les paumes. Il roule et lance le pied, sans parvenir à faire mouche. Un garçon mince, chevelure blonde hirsute, que les lumières en contre-jour dotaient d'une auréole arc-en-ciel, était penché sur lui. Au-dessus du ring, une silhouette tournait, le coutelas brandi sous les vivats de la foule. Le garçon sourit, et sortit quelque chose de sa manche. Un rasoir qui se découpa en rouge comme un troisième faisceau clignotait devant eux dans la nuit. Case vit le rasoir plongé vers sa gorge, telle une baguette de sourcier. Le visage s'effaça dans un bruit sans nuage d'explosion microscopique. Les fléchettes de Molly en salve de 20 par seconde, le garçon toussa une fois convulsivement et bascula par-dessus les jambes de Case. Il descendait vers les stands, regagnait l'ombre. Il baissa les yeux, s'attendant à voir cette aiguille de rubis émerger de sa poitrine. Rien, il la retrouva. Elle était jetée au pied d'un pilier de béton, les yeux clos. Il régnait une odeur de viande grillée. La foule scandait le nom du vainqueur. Un vendeur de bière essuyait ses fûts avec un torchon sombre. Une des tennis blanches était partie et reposait près de sa tête. « Suis le mur, courbe de béton, main dans les poches, continue de marcher. Longe des visages aveugles, tous les yeux levés vers l'image du vainqueur au-dessus du ring. » Un bref instant, un visage européen couturé dansa dans la lueur d'une allumette, lèvres ourlées autour du tuyau court d'une pipe en métal. Odeur de haschich. Case continua de marcher insensible. « Case !» Ces miroirs émergèrent des ténèbres. « Tu te sens bien ?» Quelque chose vagit et gargouilla dans l'ombre derrière lui. Il hocha la tête. « Le combat est fini, Case. Il est temps de rentrer. » Il essaya de la dépasser, de réintégrer les ténèbres où quelque chose était en train de mourir. Elle l'immobilisa d'une main posée sur la poitrine. « Des potes à ton ami proche. Ils t'ont tué ta nana. Tu leur as pas rendu un fier service à tes amis du coin, pas vrai ? On a pu obtenir un profil partiel de ce salaud quand on t'a chopé, mec. Il serait prêt à frire n'importe qui pour une poignée de yens. L'autre, là-bas, a dit qu'ils lui sont tombés dessus lorsqu'elle a essayé d'escamoter ta rame. Ça leur revenait moins cher de la liquider pour la lui piquer ensuite. Pas de petit profit. J'ai fait parler celui qui avait le laser. Pure coïncidence qu'on se soit trouvé ici. Mais il fallait que je m'en assure. Sa bouche était dure, les lèvres pressées en une ligne étroite. Case avait l'impression d'avoir la cervelle brouillée. « Qui » demanda-t-il. « Qui les envoyait ?» Elle lui passa un sachet de gingembre en poudre marqué de sang. Il vit qu'elle en avait les mains gluantes. Derrière, dans l'ombre, quelqu'un émit un bruit humide et mourut. Après la visite post-opératoire à la clinique, Molly le conduisit au port. Armitage attendait. Il avait loué un hydroglisseur. La dernière image que Case eut de Chiba fut la vision des arêtes sombres des archéologies. Puis la brume se referma sur les eaux noires et les amas de détritus à la dérive.